écoute, il y a un éléphant dans le jardin.
Bonjour, Véronique sous le micro pour l'actualité culturelle des enfants en Île-de-France. Bouquins, musique, chansons, spectacles, films, etc. Et ça y est, l'éléphant fait sa rentrée et nous sommes ravis de vous retrouver au rendez-vous pour cette nouvelle saison sur Aligre FM. Nous, c'est-à-dire moi, et les chroniqueurs fidèles qui viendront à ce micro au fil des émissions évoquer pour vous livres, films, jeux vidéo, spectacles, lectures à partager avec les enfants. Et pour démarrer la nouvelle saison de « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin » à la radio, nous parlerons éléphant et radio. Et oui, éléphant, à propos des éditions des éléphants, une toute nouvelle maison d'édition pour la jeunesse qui a publié ses premiers albums au printemps et qui nous ravissent. Les deux éditrices, Ilona Meyer et Caroline Drouot, nous la présentent, ce sera dans quelques instants. Radio, à propos de Pomme d'Api, ou plutôt Radio Pomme d'Api, la web radio des 3-7 ans lancée par les éditions Bayard il y a une quinzaine de mois. Comptines, musique, chansons à écouter tout au long de la journée, extraites de CD d'artistes que nous soutenons depuis longtemps ici. Radio Pomme d'Api à découvrir ce matin avec celui qui en est aux manettes, Stéphane Bataillon. Ce sera à 11h10. Le club des jeunes lecteurs s'est élargi pour cette nouvelle saison. Lola, Lucie, Anna, Pablo, Naina. Chaque semaine, l'un d'entre eux présente le livre qu'il a aimé, un livre qu'il a aimé, pour donner envie à d'autres enfants de le lire. Ce sera à 11h40. Et puis, fidèle d'entre les fidèles à cette émission, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance et ce sera quelques minutes avant la fin. Et puis, des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez Aligre FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Gabriel Ribeiro qui assure la mise en onde de l'émission que nous sommes ravis de retrouver. Merci Gabriel. L'adresse de la radio, c'est toujours la même, 42 rue de Montreuil dans le 11e. Le téléphone 01 40 24 28 28 ou 29 29. Et le site aligrefm.org à partir duquel vous pouvez écouter les émissions des semaines précédentes. Celle-ci dans quelques jours. Nous envoyez un mail pour nous faire part de vos commentaires, de vos suggestions, de vos compliments, nous faire part de vos découvertes ou tout simplement nous envoyer un petit bonjour qui nous fait toujours plaisir. Et pour commencer en chanson, on va commencer avec l'artiste de la rentrée pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur et je ne suis pas la seule, c'est Pascal Parizeau avec son tout nouveau Cha-Cha-Cha qui vient de sortir chez Didier Jeunesse. Il sera d'ailleurs à cette antenne la semaine prochaine. On l'écoute.
Tu ne sais danser que le chat, tu ne sais danser que le chat. Cha-cha, cha-cha, cha-cha. Tu ne sais danser que le chat, tu ne sais danser que le chat. Cha-cha, cha-cha, cha-cha. Tu ne sais pas danser le toutou.
Waf, waf.
Tu ne danses pas du tout le toutou.
Pas du toutou.
Tu ne sais danser que le chat, tu ne sais danser que le chat.
Cha-cha, cha-cha, cha-cha.
Tu ne sais danser que le chat, tu ne sais danser que le chat.
Cha-cha, cha-cha, cha-cha.
Tu ne sais pas danser le cuit-cuit.
Cuit-cuit.
Tu préfères le manger le cuit-cuit.
Cru ou cuit-cuit.
Tu ne sais danser que le chat, tu ne sais danser que le chat.
Cha-cha, cha-cha, cha-cha.
Tu ne sais danser que le chat, tu ne sais danser que le chat.
Cha-cha, cha-cha, cha-cha.
Tu ne sais pas danser le poids-poids.
Poids-poids.
le poisson sauf si c'est le pois pois. Le poisson chacha, tu ne sais danser que le chat, tu ne sais danser que le chat.
Chacha, chacha, chacha.
Tu ne sais danser que le chat, tu ne sais danser que le chat.
Chacha, chacha, chacha.
Tu ne sais pas danser le coin-coin.
Coin-coin.
Tu ne te secoues pas le bas des reins.
Seul dans ton coin-coin,
tu ne sais danser que le chat. Tu ne sais danser que le chat.
Cha-cha, cha-cha, cha-cha.
Donne-moi les pas pattes. Donne-moi les pas du cha-cha.
Cha-cha, cha-cha, cha-cha.
Trois pattes en avant vers le dîner. Trois pattes en arrière vers le canapé.
Comme un papa chat, comme un pacha. Cha-cha, cha-cha, cha-cha. Cha-cha, 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 cha-cha. Cha-cha, 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 cha-cha.
Pascal Parizeau, donc sur Aligre FM 93.1, Pascal Parizeau qu'on retrouvera la semaine prochaine ici même en live. Les éditions des éléphants, avec un nom pareil, pas question pour nous de passer à côté dans cette émission. Et encore moins après avoir découvert et savouré les albums que publie cette toute jeune maison d'édition. Car la douzaine d'albums parus au printemps ou qui paraissent ces jours-ci ont de quoi nous plaire. Bien sûr, ils sont tous différents, tant par leurs auteurs, leurs thématiques, leur format ou même l'âge des enfants auxquels ils s'adressent. Des histoires en images, des histoires illustrées, des contes, des documentaires, une certaine variété donc. Mais avec pourtant des points communs qui s'affirment rapidement, même s'ils ne s'affichent pas d'emblée. Presque tous signés par des auteurs aux talents reconnus, français ou étrangers. Mayanger, Liane Brouillard, Sigrid Baffert, David Small, Maurizio Quarello, pour en citer quelques-uns. D'une belle facture, somme toute assez classique pour la plupart, tous ces albums donnent une place importante au récit, à la force des histoires, au rythme de la narration, tant par le texte, la poésie de la langue que par les illustrations. Et c'est tant mieux. Alors qu'aujourd'hui, dans de très nombreux albums contemporains, le texte ou le fil narratif sont plutôt minces et servent surtout de prétexte à exposer des images, ici, texte et illustration se conjuguent pour raconter des vraies histoires. Pas d'effet de matière ni de couleurs vives ou contrastées, pas de recherche graphique particulière, mais des images délicates, chaleureuses, parfois un rien suranné, qui leur confèrent une certaine intemporalité et une grande lisibilité, avec une impeccable construction et progression du récit, comme c'est le cas avec le superbe « Les aventuriers du soir » d'Anne Brouillard, qui sait si bien mettre en scène et en jeu l'imaginaire des jeunes enfants. Mais que ce soit les contes, les albums documentaires, les histoires, ce qui relie d'abord tous ces livres, je crois, ce sont les valeurs humanistes qui les sous-tendent. Tolérance, ouverture aux autres, entraide et solidarité, que ce soit dans L'Ami, l'album de Sarah Stewart et David Small, paru une première fois chez Cyrus, ou dans ce très malin Cité Babel, le grand livre des religions, ou encore Le Dernier Voyage d'Irène Cohen-Janka, un récit hommage à Janusz Korczak. Sujet grave, mais aussi sujet plus léger, avec par exemple la série des docufictions Les Mercredis de Igor et Suki sur la découverte des sites touristiques de Paris par deux enfants. Et c'est d'ailleurs à Paris que sont installées les éditions des éléphants, dirigées par les deux éditrices, Ilona Meyer et Caroline Drouot, que nous sommes ravis d'accueillir ce matin pour nous présenter cette nouvelle maison d'édition. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Et évidemment, la question première, évidemment, ce sera pourquoi les éléphants ? Avez-vous choisi le nom des éléphants ? Une question qu'on a dû déjà vous poser au moins une quinzaine de fois.
Voir, oui, voilà. Au moins une quinzaine de fois, voire un peu plus, effectivement. C'est un nom. Moi, quand j'ai démarré l'aventure avec Ilona avait déjà réfléchi à ce nom. C'est elle qui avait lancé l'initiative de créer cette maison d'édition. Et
c'est vrai que il me tenait à cœur déjà d'avoir un nom qui parle à l'enfant. L'éléphant est un animal qui est très présent dans l'univers jeunesse et qui a vraiment que du positif associé à lui.
Si on pense à Baba, c'est à ça. Elmer, à Pomelo.
Voilà, tout à fait.
Dumbo.
Et donc, les éléphants, c'est vite imposé. Les, parce que je considérais que les livres pour enfants ne se font pas tout seuls. Donc, il y a vraiment le côté
d'être ensemble,
d'être plusieurs à travailler. Et puis, j'avais aussi très à cœur que ce soit quelque chose d'un peu enfantin. Et c'est vrai que la liaison qu'on font souvent les gens, c'est les éléphants. Et il y avait quelque chose vraiment... Voilà. On comprenait tout de suite que c'était une maison d'édition pour enfants.
Et pour aller un petit peu plus loin, quelles sont les autres symboliques que vous avez attachées à ces mots ? Parce que j'imagine que du coup, ça a gambadé dans vos têtes.
Exactement. Alors, l'éléphant, on a vraiment... retenu, Caroline et moi, quatre grands attributs. Donc, il y a la grâce, qu'on essaye effectivement de représenter dans nos albums, tant par l'illustration que par le texte. La force, donc ça, c'est aussi le texte qui, pour nous, doit être fort, il doit vraiment nous toucher. La mémoire, on a une sous-collection qui s'appelle Mémoire d'éléphant, dans laquelle se rentre le dernier voyage donc, que vous avez évoqué tout à l'heure. Et... l'intelligence.
Voilà, l'intelligence qui nous permet aussi de parler plus de documentaires, puisqu'on s'adresse vraiment aux connaissances de l'enfant.
Et puis la longévité, donc longue vie aux éditions des éléphants.
Voilà, la longévité, alors c'est moins dans l'axe éditorial, parce que c'est vrai que c'est symbolique qu'on a travaillé autour de l'éléphant, ça nous a permis vraiment de mettre des mots sur ce qu'on avait envie de développer au sein du catalogue. Et la longévité, c'était vraiment aussi la bonne étoile qui nous guide.
C'est ça, et aussi c'est vrai qu'on essaie de faire des textes, vous l'avez dit, intemporels, qui existent dans la durée, qui soient lus plus tard aujourd'hui par nos enfants et les enfants et plus tard par leurs enfants.
Donc ne pas céder aux effets de mode.
Voilà.
C'est ça.
Alors vous n'êtes pas toute nouvelle du tout dans l'édition jeunesse puisque au moins l'une d'entre vous a travaillé dans des maisons d'édition jeunesse.
Oui.
Mais donc c'est chargé à la fois d'expérience,
et
aussi de rencontres avec des auteurs, j'imagine, qui fait que aujourd'hui vous avez commencé un catalogue avec des auteurs qui sont déjà qui ont déjà de nombreux livres à leur actif.
C'est vrai qu'une maison d'édition, c'est avant tout une aventure humaine. Hein. C'est vrai qu'on voit des maisons d'édition qui se créent, mais c'est parce qu'il y en a aussi beaucoup qui disparaissent parce qu'elles sont avalées par des plus grosses et qu'elles perdent un peu de leur âme, ou parce que tout simplement, les raisons économiques font qu'elles disparaissent. Donc il y en a beaucoup qui renaissent de leurs cendres, et les auteurs sont souvent d'abord attachés à une personne avant d'être attachés à une maison. Bon, moi, j'avais travaillé, j'ai commencé aux éditions Syros aux côtés de Françoise Matteux il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années maintenant. Donc, dans une maison qui avait une vraie ligne éditoriale assez engagée. Et puis, j'ai poursuivi aux éditions du Sorbier, que j'ai relancé il y a quelques années autour des cultures du monde. Et puis ensuite, au Seuil Jeunesse, voilà, où j'ai rencontré aussi de nombreux grands auteurs. Mais ce qu'on a publié là, au départ des éditions des éléphants, c'est presque ceux avec qui je travaille depuis le plus longtemps, ceux que j'ai rencontrés même depuis Syros, qui m'ont suivi au Sorbier puis au Seuil.
Voilà. Donc c'est vraiment des histoires d'amitié et de fidélité.
Exactement.
Mais non, parce que je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question que je pose souvent à des jeunes éditeurs qui se lancent. À chaque fois, je suis étonnée que dans un marché qui est si surchargé aujourd'hui autour des livres pour enfants... on ait l'énergie de se dire « je vais y trouver ma place ». Parce qu'il faut se battre, non ?
Il faut une part d'inconscience, je pense. Mais c'est vrai que l'enfant est au cœur pour nous. Et des bons livres pour enfants, il n'y en a jamais assez. Il y a beaucoup, beaucoup de livres, mais des bons livres, il n'y en a jamais assez.
Voilà. Bonne réponse. Alors parmi donc, tous les projets que vous avez mis en forme, donc les livres que vous avez édités, vous venez de dire qu'il y a des auteurs qui vous ont suivi depuis longtemps. Est-ce que lorsque vous avez lancé votre projet, ils sont venus tout de suite à vous avec des idées et des livres en cours qu'ils avaient envie de vous proposer, ou au contraire vous êtes allé les rechercher et faire des commandes ?
En fait, on a certains projets étaient déjà, avant qu'on démarre la maison d'édition, enfin, les auteurs m'en avaient déjà parlé, donc c'était des projets qui me tenaient à cœur, que j'ai proposé à Ilona quand on a démarré la maison d'édition. Je pense notamment au Plouf de Easy Young et qui est sorti la semaine dernière. Ensuite, ce sont effectivement des textes au moment où on a démarré. J'ai parlé de cette aventure à May Angélique en lui disant j'aimerais bien que tu fasses quelque chose pour les plus petits parce qu'elle a des univers pour les plus grands souvent, mais en même temps elle a quelque chose, une efficacité dans son travail sur la gravure sur bois qui permet vraiment une lisibilité très forte pour les tout petits. Et donc, elle s'est penchée là-dessus. Voilà, Anne Brouillard, pareil, elle a toujours mis le projet dans sa marmite. Et là, elle en a sorti un qui nous a bien plu. Donc,
D'ailleurs, Ilona, vous ne nous avez pas dit, vous, quel a été votre parcours pour arriver jusqu'aux éléphants ?
Moi, j'ai commencé effectivement dans l'édition. On s'est rencontrés quand moi, j'étais stagiaire chez Nathan et que Caroline travaillait chez Syros. Et puis, j'ai fait bifurquer quelques années dans le graphisme et la maquette. Pour revenir à l'édition, qui en fait était mon amour de jeunesse, je m'étais laissée décourager quelque temps par la difficulté de s'y faire une place. Et quand j'ai repris des études en édition, je me suis dit que c'était vraiment pour créer ma maison. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai fait appel à Caroline.
Et donc vous avez des savoir-faire différents ?
Oui, complètement. Oui. On est complémentaires complètement et en même temps, on fait tout à deux. Enfin, je veux dire, on est dans un petit bureau, donc dans une grande proximité de décision.
Voilà. Donc, moi, je suis à la maquette, aux traductions de l'anglais au français et aussi à tout ce qui est paperasse, il y en a beaucoup. Et Caroline, vraiment l'éditorial, la fabrication, vraiment, on se partage toutes les tâches. Et c'est vraiment chouette que c'est vraiment un travail de groupe.
Alors, ouvrons le catalogue des éditions des éléphants. Et j'aimerais bien, alors moi, je l'ai présenté à ma façon, en tout cas, ce qu'il en apparaît pour le lecteur ou la lectrice que je suis. Mais pour vous, quels sont les fils que vous mettez en avant ? Par exemple, le fait qu'il y ait des collections sans qu'il y ait réellement des collections. Et en même temps, il y a des collections.
Oui. Il y a une vraie collection quand même qui a été vraiment à l'initiative de la maison d'édition. C'est la première chose dont Ilona m'a parlé quand on s'est rencontrés la toute première fois. Elle m'a dit voilà, moi j'ai un projet de collection que je souhaiterais développer et puis qui sera la base au départ de la maison d'édition. Donc peut-être tu veux.
Donc ça c'est les mercredis d'Igor Isuki. J'avais ce projet en tête. C'était même mon projet de fin d'études. Je voulais transmettre aux enfants, aux lecteurs, un certain nombre d'informations sur des hauts lieux culturels qui, à l'origine, n'étaient pas seulement parisiens et qui le sont d'ailleurs pas seulement dans le futur. Et je trouvais que la façon la plus efficace de transmettre ça, c'était avec une histoire, que les enfants s'attachent aux héros de cette série, donc Igor et Suki, et qu'ils voyagent avec eux. Et il me tenait aussi à cœur que ces héros soient des héros d'aujourd'hui, même s'il n'y a pas d'effet de mode, qu'ils représentent les enfants qu'on a en classe avec soi. Et donc, dans ce livre-là, les deux enfants sont d'une famille recomposée. C'était une configuration qu'on voit peu dans les livres d'enfants, ou alors pour en parler comme une thématique et comment surmonter la séparation des parents. Et il était, pour moi, ça ne devait pas être quelque chose d'évident, mais ça devait être dans le paysage parce que je trouve qu'il est aussi important que les enfants se voient dans les livres, qu'ils ne voient pas qu'un stéréotype d'une enfance qui n'est plus la même.
Donc deux enfants qui vont se rencontrer et dont les parents vont se rencontrer également. Et vous avez donc fait appel à Sigrid Baffer et Sandrine Bonini.
Alors, Sigrid, c'est une connaissance de longue date, puisque moi, j'avais travaillé avec elle chez Syros. Je me rappelle, j'étais en stage quand j'ai travaillé sur un de ses premiers manuscrits. Et Sigrid, on avait initié au Sorbier une petite collection d'albums, et c'était ses premiers albums. Et puis là, effectivement, on s'est dit, ce serait bien de faire appel à quelqu'un de vraiment de la littérature pour travailler sur du docu-fiction, qui est d'abord que la voix d'une auteure soit première, avant que ce soit vraiment du documentaire. Et elle est virtuose en ça, Sigrid, pour donner vie à des personnages, à une sensibilité. Alors, hier, on a encore lu le prochain texte de Sigrid. D'ailleurs, je ne lui ai pas encore dit, mais on a été toutes les deux très émues en le lisant, parce qu'il y a une vraie sensibilité qui se dégage, et ce sera au Centre Pompidou. Et en fait, il y a vraiment une histoire très touchante. Et Sandrine Bonini, ça a été notre première collaboration, parce que moi, je n'avais jamais travaillé avec elle, jamais son travail chez Autrement, il en a aussi. Donc, on l'a contactée pour l'univers qui se dégageait de son travail.
Donc, quatre albums pour le moment. Igor et Suki à la Tour Eiffel, Igor et Suki aux Eaux de Paris, Igor et Suki à l'Opéra et Igor et Suki dans les Égouts de Paris. Alors, donc là, c'est entre guillemets une commande que vous avez faite à des auteurs. parmi les autres livres, je n'ai pas l'impression que vous ayez fait des commandes, plutôt que ce soit des couples qui existaient déjà, comme je pense à Guillaume Olive et Ziyong.
Oui, effectivement, tous les autres albums qui sont des créations sont des propositions de vraiment des auteurs. Ce n'était pas du tout des commandes, c'était des projets qui vivaient en eux et qu'ils ont eu à cœur de nous proposer. Donc notamment le Plouf qui est sorti la semaine dernière, c'est un petit conte pour les petits, encore une fois, un petit conte de randonnée d'origine chinoise. L'illustratrice Eziong est elle-même d'origine chinoise et elle travaille vraiment dans des techniques qui sont propres aux techniques de son pays. Là, c'est de la peinture sur papier de riz. Et qui donne une dimension tout à fait particulière à l'album. C'est un vrai livre d'artiste pour les petits, encore une fois, mais où les animaux se présentent vraiment comme des petites peluches. Quoi.
Et puis on se retrouve dans ce qui plaît tôt aux enfants, c'est-à-dire ces contes de randonnée. Exactement. Où il y a accumulation des animaux les uns après les autres,
voilà.
Pour une déconstruction, et donc qui ravissent les tout-petits. Puis vous avez joué sur le format, puisque c'est un livre, ce qu'on appelle le format à l'italienne, c'est-à-dire... Tout allongé.
Pour marquer la course qui va traverser ce livre, puisqu'au départ, c'est un petit lapin qui prend peur au bruit de l'énorme plouf, qui prend peur, et à sa suite, en fait, tous les animaux vont se lancer à sa suite en criant au secours, voilà le plouf, jusqu'à ce qu'il y en ait un plus malin que les autres qui les arrête, qui dit, mais enfin, qui est ce plouf? Et on revient jusqu'à la source de la rumeur, le lapin, qui va dire, je l'ai entendu au bord de la rivière, c'était terrifiant. Le tigre dit, mais enfin, allons voir de quoi il en retourne, avant de savoir s'il faut s'enfuir à son approche. Ils retournent tous à la rivière.
Et à cet instant-là, plouf,
une énorme mangue tombe de l'arbre pour tomber dans la rivière.
Donc c'est le plouf qui est paru juste la semaine dernière, qu'on va donc retrouver en librairie. Donc les livres qui sont publiés par les éditions des éléphants s'adressent aussi bien aux tout-petits, comme avec le plouf, qu'aux plus grands. On pourra évoquer le dernier voyage d'Irène Cohen-Jeanca. Ce sont à la fois des livres qui sont des livres des contes, ou des adaptations de contes, ou des prolongements de contes, ou bien des livres documentaires, mais qui passent pour la plupart, ou presque tous, même par la fiction. Donc voilà, là, ce sont les lignes éditoriales que vous avez définies pour la maison des éditions des éléphants.
Oui, pour ce qui est du documentaire, on voulait que le documentaire soit traité autrement, pas sous forme encyclopédique. Il y avait vraiment un souci de transmettre l'information de façon plus ludique et de se servir de l'illustration pour en faire quelque chose d'agréable à parcourir, et que même un enfant qui ne sait pas encore lire prendra plaisir à tourner les pages et à se rappeler ce qu'il a appris quand on lui l'a lu.
À quoi vous faites le plus attention, en tout cas, où sont vos exigences à vous en tant qu'éditrice? On ne peut pas être partout, ce n'est pas possible.
Non, d'abord, dans le texte, il faut qu'on soit touché. Je crois que toutes les deux, en fait, on a vraiment... Ce qui nous rapproche beaucoup, c'est d'être touché par le texte. Et d'ailleurs, ça se ressent dans beaucoup de ces albums, il y a vraiment souvent des émotions qui se dégagent. Donc ça, c'est important pour nous, que le texte ne soit pas effectivement trop léger, qu'il y ait quelque chose qui se dégage et quelque chose qui nous reste et qui nous donne envie de revenir dans ces histoires, quoi. Que ce soit pas juste une histoire une fois qu'elle est lue qui nous apporte plus rien, qu'on la porte longtemps. Donc ça, c'est au niveau du texte, et ensuite au niveau de l'illustration.
C'est vrai que moi j'ai une formation graphique à l'origine, et je suis très très sensible à l'image. Et Caroline a la chance de connaître tout un tas d'artistes qui sont extrêmement talentueux, donc je suis vraiment bien accompagnée dans ce sens-là. Et aussi la forme qui doit être au service et du texte et de l'illustration. Et c'est pour ça qu'on varie beaucoup les formes de nos albums. On n'a pas un format unique.
On se retrouve dans quelques instants autour des éditions des éléphants.
Une souris dans l'ordinateur, y a un coucou dans ma pendule, un petit oiseau dans la culotte de Jules. Y a une linotte au fond de ma tête, j'ai des fourmis dans les gambettes. Y a un loir qui sommeille en moi, pour faire le pingouin, je suis le roi. Un animal, des animaux, on n'en voit pas que dans les zoos. Un animal, des animaux, on en voit partout, c'est banal. Mais écoute, écoute-moi bien,
passe un drôle de truc ce matin. Écoute, écoute-moi bien, y'a un éléphant dans le jardin. Quand on a ouvert les volets, il était là à nous regarder. Il souriait très gentiment. Il n'avait pas l'air bien méchant. Mais d'où vient donc ce pachyderme, aussi gros qu'un camion citerne? C'est impossible vu sa taille qu'il soit entré par le portail. Un éléphant, j'en suis certain, ça ne pousse pas dans les jardins. Ça ne tombe pas non plus du ciel. Un éléphant, ça n'a pas d'aile. Mais écoute, écoute-moi bien, il se passe un drôle de truc ce matin. Écoute, écoute-moi bien, y'a un éléphant dans le jardin. C'est un éléphant étonnant qui sait faire des trucs épatants. Il sait danser debout sur les pointes. Il connaît toutes les chansons de Bobby Lapointe. Il raconte des histoires vraiment drôles. C'est un dingue de rock'n'roll. Et le truc est vraiment sans sas. Avec sa trompe, il fait du jazz. Ce qu'il y a de bien dans une chanson, c'est qu'on peut dire sur tous les tons un peu tout et n'importe quoi, et aussitôt tout le monde vous croit. Un éléphant dans le jardin, non mais vous y avez cru, j'en suis certain. Et pourquoi pas tant qu'on y est, une baleine au fond de l'évier. Écoute, écoute-moi bien. Écoute, écoute-moi bien. Écoute, écoute-moi bien. Il passe un drôle de truc ce matin. Écoute, écoute-moi bien. Y'a un éléphant dans le jardin. Écoute, 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 écoute-moi bien. Il se passe un drôle de truc, un drôle de truc ce matin.
FM 93.1, c'était Hervé Subiette. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Je viens de changer le micro, je pense que ma voix a changé. Merci Gabriel d'avoir fait attention à ça. Donc ce matin, nous sommes en compagnie d'Ilona Meyer et Caroline Drouot, toutes les deux éditrices de la toute nouvelle maison d'édition, les Éditions des éléphants, qui ont publié jusqu'à présent une quinzaine d'albums depuis le printemps. Donc on ne va évidemment pas tous les citer. Moi, j'ai un coup de cœur, évidemment, parce que j'aime beaucoup son travail. Pour l'album de Anne Brouillard, Les Aventuriers du Soir, d'abord à cause de sa palette, de sa façon dont elle travaille et l'illustration et qu'elle passe du jour à la nuit dans ses albums, et surtout dans cette attention toute particulière qu'elle a de rentrer de plein pied dans l'imaginaire des enfants. Et je trouve qu'elle le met parfaitement en valeur
dans, oui. dans cet album. On retrouve un peu tout son univers dans cet album, ces problématiques du temps qui passe. Et moi, ce qu'on aime beaucoup là, dans cette histoire, c'est que quand on démarre le livre, on est avec l'enfant dans une immense forêt. On ne sait pas si c'est une jungle ou quoi. Il est avec son chat, il est avec son lapin. Et en fait,
son
Lapinus, qui est le nom d'ailleurs du doudou d'Anne Brouillard de quand elle était petite, on a appris ça. Et donc tous les trois sont dans cette forêt sauvage, au milieu d'une cabane, ils partent à la pêche pour le dîner. Enfin voilà, il y a tout un univers qui s'installe jusqu'à ce que en fait, le petit garçon dise « maintenant on va aller découvrir le monde ». Il grimpe à un immense arbre, puis on voit qu'en fait leur monde c'est la maison des parents à quelques mètres, le bout du jardin qui est juste là, la lumière rassurante de la maison, alors que c'est un moment un peu entre deux d'une soirée d'été, de fin d'été, où la lumière commence à baisser. Et du coup, on bascule aussi de l'imaginaire de l'enfant à la réalité.
Et puis avec son travail, c'est particulier sur la narration en images, où elle, elle est une très grande maîtrise à la fois du texte et de passer des grandes illustrations double page à des vignettes et qui sont très lisibles par les tout-petits.
C'est un travail du grand art. C'est un travail extrêmement visuel que le travail d'Anne Brouillard. Elle travaille d'abord effectivement avec des images mentales qu'elle se fait et qui sont elles-mêmes narratives. Et très souvent d'ailleurs, ces albums n'ont même pas besoin de texte pour exister. L'enfant se plonge dans l'image et tout est dit, quoi. Donc voilà, donc il y a tout ce travail-là.
Et donc, c'est Anne Brouillard, vous l'avez rencontré à ses débuts, j'imagine, parce que ses premiers albums, son premier album, Trois chats, était paru au Sorbier.
Au Sorbier, mais en fait, il est paru avant que moi, je ne travaille au Sorbier. Donc, je l'ai réédité quand je suis arrivée au Sorbier. Mais elle avait publié également chez Syros et elle avait travaillé aussi au Seuil. Donc, en fait, souvent, on s'est croisés jusqu'à travailler ensemble dernièrement au Sorbier et au Seuil Jeunesse pour créer nos albums ensemble, enfin, ses albums ensemble. Voilà, et puis c'est une aventure qui continue. Puis on était encore hier avec elle à Bruxelles pour parler de son travail.
Évidemment, donc j'ai dit, on ne va pas tous les citer, mais donc maintenant que moi, j'ai cité celui qui me tenait le plus à cœur, je vous laisse présenter celui qui vous tient le plus à cœur. Évidemment, c'est difficile.
Oui, il faut faire des choix.
De faire des choix, mais c'est comme ça.
On va vous parler de Cité Babel, qui paraît en octobre, le 21 octobre. Et c'est un livre qui était aussi tout au début de notre projet de maison d'édition. Dans nos documentaires qui parlent à l'enfant autrement, on avait envie de parler de différentes communautés qui vivent en harmonie. Donc ce livre-là est dédié aux trois grandes religions monothéistes. C'est un documentaire. Il se présente sous la forme d'un immeuble, donc il est tout en hauteur. Et encore une fois, la forme est au service du sujet. Donc nous avons des découpes dedans. Donc c'est un livre qui est en quatre sections. Chaque section correspond à un appartement. À l'étage du haut habite une famille musulmane, au deuxième la famille de confession juive, au premier la famille chrétienne et au rez-de-chaussée il y a un épicier qui est athée. Et on suit tout cet immeuble au fil des saisons, au fil des rites, des fêtes et on apprend plein de choses sur l'origine de ces religions, sur les fêtes, sur la façon de vivre les grands moments de la vie, les naissances, les mariages, les morts. Dans l'épicerie, on aborde aussi tout ce qui est les thématiques de nourriture qui sont associées aux différentes religions, à ces trois religions monothéistes. Et on présente aussi les religions qui ne sont pas abordées dans ce livre.
C'est voilà. Donc la cité de Babel, donc toutes les religions sont là, s'ils ne sont pas dans les étages, elles sont chez l'épicier.
On voit aussi dans cet immeuble l'idée du vivre ensemble, parce que les enfants, les familles vont les
se croisent, s'invitent, font la fête ensemble.
Exactement, ouais. S'offrent au moment des fêtes des spécialités, et puis à la fin de l'année, puisqu'en fait c'est toute une année de cet immeuble qu'on va voir dans ce livre. À la fin de l'année, c'est le réveillon qui est une fête pas religieuse hein, finalement, mais qui permet de rassembler tout le monde.
Et donc ça, c'est plutôt un album pour les enfants de 5-6 ans, fin de maternelle, qui commencent à poser beaucoup de questions.
Oui, voilà, même 7 ans, au moment où on commence à vraiment... Parce qu'après, on donne beaucoup d'informations aussi sur ces trois religions. L'idée, c'est quand même de montrer qu'il y a beaucoup de similarités aussi. Il y a un vrai tronc commun dans ces trois religions. C'est des façons de vivre différemment sa croyance en Dieu.
Voilà, ce qui n'empêche que le petit frère ou la petite sœur, plus jeune, aura un vrai plaisir à suivre les personnages, à les retrouver d'un appartement à l'autre. Voilà, c'est un album qui peut vivre longtemps. Voilà,
très coloré et avec des personnages très, très typés, on va dire, très forts.
Voilà, de Pascal Edelin et Gaëlle Duhazé.
Et vous, je vous laisse vous présenter le dernier, Caroline.
Alors mon coup de cœur, je vais peut-être parler de La roulotte de Zoé. Ouais, bah c'est difficile hein, parce que j'ai un peu parlé de Mère Angélie tout à l'heure, oui. Alors je ne me suis pas étendue, mais bon. Claude Clément, c'est aussi une auteure que je connais depuis longtemps et ce que j'apprécie vraiment chez elle, c'est qu'elle a une vraie voix de conteuse, une vraie musicalité dans ses textes et puis des valeurs toujours très fortes qui se dégagent de complicité, de fraternité, de solidarité. Et c'est dans cette roulotte de Zoé. Au départ, d'ailleurs, ce n'est pas une roulotte, c'est une petite fermière qui habite dans une jolie petite chaumière et elle va être chassée de sa maison. Elle va partir sur les routes et au fur et à mesure que la saison se refroidit, elle va commencer à chercher un abri et elle va se rendre compte que c'est pas si facile de trouver un abri. elle va découvrir une petite roulotte. Alors, j'ai oublié de dire quand même qu'elle était accompagnée de sa chèvre et de son chat, qui sont ses compagnons de vie. Et elle va rentrer dans une petite roulotte abandonnée, s'y aménager un petit nid. Et au fur et à mesure, on va voir des différents animaux qui vont frapper à sa porte pour trouver refuge dans cette roulotte auprès d'eux. Et en fait, c'est tous un peu des éclopés de la vie, quoi. Une petite poule déplumée, un cheval trop vieux pour tirer la charrette, etc. Donc, et chacun va trouver sa place au sein de cette nouvelle famille qui se crée, cette nouvelle communauté. Et ça, c'est aussi des choses auxquelles on était sensibles, voilà. Toutes les deux.
Chacun amène sa richesse, la richesse qu'il a en lui, que les autres n'ont pas forcément su voir. Mmh. Et ils se donnent l'un l'autre du réconfort. Et c'est vraiment un album très touchant.
Voilà. Et donc, un album réalisé par
Magali Dulin. Alors, à l'illustration, alors là aussi, ça nous tenait à cœur de faire découvrir aussi des nouveaux talents, parce que ça permet finalement, quand on a un bon texte, de le proposer à quelqu'un de jeune et de pas connu. Ça lui donne plus de chances aussi d'être découverte. Et Magali Dulin, elle a un talent inouï. Elle a un côté un peu des images très naïves, à la fois naïves et colorées, une vraie sensibilité qui se dégage. Donc, on était très contente de la découvrir, et c'était la première fois qu'on travaillait avec elle.
Donc, bon, on ne pourra pas tous les citer. Moi, je donnerai juste un petit clin d'œil quand même à l'ami, la réédition de l'ami, album de Sarah Stewart, David Small, qui est un couple d'auteurs anglais, si je ne me trompe
voilà,
pas.
Voilà, mais quand on la raconte, on pleure toutes les deux, donc on ne peut pas la raconter à la radio.
Bon, mais alors, on ne la racontera pas, mais donc l'amitié fidèle entre une petite fille et sa nourrice qui les amène très loin, on va dire ça comme ça.
Voilà.
Et puis voilà, puis on ne va pas tous les dire, on va inviter nos auditeurs à aller voir. Est-ce qu'il y a un site pour les éditions des éléphants ?
Pour l'instant, il y a une page Facebook qui fonctionne très bien et le site devrait être lancé d'ici la fin de l'année.
Donc on trouvera toutes les informations sur le site Facebook. Vous serez au Salon du Livre de Jeunesse à Montreuil pour présenter tout votre catalogue.
Toutes nos parutions de l'année. Voilà,
ça va venir vite. Et puis j'imagine que vous avez encore plein de projets dans la tête.
Oui.
Plein d'idées. Donc vous reviendrez en parler dans quelques temps pour nous présenter vos prochains livres.
Avec grand plaisir.
Caroline Drault et Ilona Meyer. Merci beaucoup.
Merci Véronique.
Et puis donc les éditions des éléphants à découvrir dans les librairies et dans les bibliothèques. Merci à vous.
Au revoir.
J'ai perdu ma tribu, tous mes frères et mes sœurs, que sont-ils tous devenus? Et surtout, pourquoi ne me cherchent-ils pas? Je trouve ça ingrat, pas sympa. Je suis un bébé éléphant égaré. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher? J'ai bien peur qu'il se soit suivi dans le précipice, au fond des profondis. Et moi, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Je me sens tout éreintant. Je suis un bébé éléphant égaré. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher? Faire un peu la jungle, s'il vous plaît. Hein? Ah ouais. Ah ouais. Parce que je ne me sens pas chez moi dans ces jungles inconnues. À ma vue, tous sont encourus. Personne ne sait d'où je suis. Je suis un mal blanchi, impoli. Je suis un bébé éléphant égaré. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher? Appel. Quelle tribu voudrait m'adopter? Je suis un égaré, sans carte d'identité. Ok, je me plierai à vos coutumes. Ok, si vous acceptez mon volume. Je suis un bébé éléphant. éléphant égaré. Oh non, bah, 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 pourriez-vous, s'il vous plaît, me rechercher?
Vous aurez certainement reconnu Dick Annegarn, bébé éléphant, et vous êtes sur Aligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Depuis plus d'un an, depuis le 20 juin 2014 pour être exact, les très jeunes enfants ont leur propre station de radio, Radio Pomme d'Api, la radio des 3-7 ans. Radio Pomme d'Api, du nom du magazine édité par Bayer Press, que des générations et des générations d'enfants ont lu et lisent encore aujourd'hui, puisque son premier numéro et son indomodable petit ours brun sont apparus en 1966. Et bien voici que Bayer s'est lancé dans la radio, ou plutôt la web radio, à écouter sur ordinateur, smartphone, ou sur tablette, pour faire écouter aux petites oreilles et aux adultes qui les accompagnent, à n'importe quel moment de la journée ou même de la nuit, un programme musical composé de chansons, de comptines, poèmes, musiques, histoires, puisé dans le répertoire discographique contemporain, celui que nous aimons ici, d'artistes qui créent pour les enfants David Cyr, Anna Schneider, Pascal Parizeau, Hervé Subiette et de nombreux autres chanteurs encore, que vous avez d'ailleurs souvent entendus dans cette émission. Et ils se succèdent au fil des heures pour faire entendre la variété de la création d'aujourd'hui dans ce qu'elle a d'original et de qualitatif. À ces chanteurs pour enfants se mêlent aussi des chansons et chanteurs qui sont entrés dans le patrimoine collectif de l'enfance, Nilo Ferrer, Renaud, Brassens et d'autres, ou encore des musiques de jazzmen américains, ou encore des extraits d'œuvres classiques. Une jolie façon d'ouvrir les oreilles des enfants à un éclectisme musical auquel ils ne sont pas forcément déjà accoutumés. Bon, j'avoue, je suis un petit peu moins fan des bandes-son des films de Walt Disney, mais elles sont déjà un peu moins nombreuses qu'au début, et car bien sûr, la programmation s'est agrandie, elle s'est élargie, entre autres grâce à la palette des labels représentés. Quand on clique sur Radio Pomme d'Api, on entend d'abord ça.
Radio Pomme d'Api.
Et puis une interface toute simple, colorée, conviviale, avec les références sur la chanson ou la musique en cours de diffusion. Pas de parlotte, mais de joyeux jingles qui rythment le film musical. Pas de pub, pas d'annonce, mais un accès gratuit et un son parfait. Radio Pomme d'Api à suivre sur radiopommedapi.com ou sur la tablette via une application gratuite. C'est bien sûr la radio à écouter avec les petits à n'importe quel moment de la journée, sans crainte de la médiocrité ou de l'overdose, mais au contraire, pour y découvrir le meilleur de la création sonore pour le jeune public. Et aux manettes de Radio Pomme d'Api, Stéphane Bataillon, rédacteur en chef de Radio Pomme d'Api et responsable du numérique chez Bayer. Et nous sommes ravis de l'accueillir ce matin pour nous présenter Radio Pomme d'Api. Bonjour Stéphane.
Bonjour Véronique.
Alors une radio pour les 3-7 ans, Radio Pomme d'Api, initiée par Bayer Press, qui dans son journal déjà prêtait une attention particulière aux chanteurs pour enfants, parce que je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, je le dis moins.
Tout à fait.
Mais il y a toujours des interviews de chanteurs et des rencontres avec des créateurs.
Depuis le début du journal, qui va fêter ses 50 ans l'année prochaine, toutes les équipes qui se sont succédées ont tenu à faire le rôle de médiateur entre le public, les parents et la création sonore pour enfants. Depuis le début, on a accompagné des artistes.
Je me souviens qu'il y avait même des disques de Vincent Malone en supplément avec Pomme d'Api.
Tout à fait. Et puis avant ça, Henri Dess, qu'on a beaucoup accompagné
c'est
au
vrai.
Début, hein, même dans les concerts, dans les choses comme ça. Pomme d'Api a toujours considéré que l'écoute était un des sens à développer chez l'enfant. Donc nous, on était un magazine, hein, donc on parlait de la création sonore, et puis on a toujours voulu créer des événements, et souvent avec les UT, par exemple, Le Roi des Papas, Vincent Malone. On a créé des CD, des numéros spéciaux autour des fêtes de la musique. Et puis, on se disait qu'il fallait faire peut-être autre chose que ça, et on a découvert un peu la web radio, qui est quelque chose qui existe depuis déjà 20 ans sur Internet, mais qui commençait il y a 2 ans à prendre un peu d'ampleur, un peu d'essor, et surtout qui était à notre portée. Le groupe Bayer avait déjà essayé d'être dans des projets de radio pour enfants. C'est un vieux rêve un peu
Et oui, les uns ou les autres de la maison.
Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà, il y a Milan aussi, hein, qui fait partie du groupe, avait développé sa collection de livres.
N'empêche, Stéphane, soyons clairs, c'est vous qui avez impulsé un peu tout ça, non ? Qui avez mis
Alors,
le
on
feu
était plusieurs. Voilà, moi c'était un désir, mais avec d'autres aussi, hein, avec toute une équipe, avec beaucoup de gens qui se sont rassemblés autour de ce projet-là. C'était ce qui était très, très agréable, et c'est peut-être ce qui s'entend un peu à l'antenne, c'est qu'on on s'est vraiment retrouvés autour d'une belle idée. C'est des animateurs, c'est Elodie Fondacci qui vient prêter sa voix et réaliser tous les jingles de la radio. C'est le Jam Radio, qui a été notre partenaire un peu, qui est une web radio pour adultes, dans le genre de FIP, enfin, très intéressante, mêlant aussi les styles. Qui nous a beaucoup aidé pour monter ce projet. Et puis, à l'intérieur de Bayard, la rédaction de Pomme d'Api, des gens du... Enfin, tout le monde s'est mis un peu pour lancer ce projet-là et se dire, voilà, au moment où le numérique est un peu omniprésent, au moment où le MP3 est la seule façon d'écouter aujourd'hui pour des enfants et dans les familles, on a envie d'offrir quelque chose de différent, avec un son vraiment de bonne qualité et surtout de médiatiser un secteur, la création de la chanson pour enfants, chansons et paroles, hein, parce qu'il y a beaucoup de poésie, qu'il est très peu, finalement. Il y a votre émission, il y a quelques rubriques dans les journaux, mais finalement, on parle très, très peu de la création sonore pour enfants. Dans les grandes surfaces, on retrouve toujours les quelques mêmes références. Alors, des fois, des choses très, très bien, hein, comme les Fabulettes d'Anne Sylvestre, qui restent...
Indémodable.
Indémodable, un petit bijou. Mais bon, il y a plein de choses qui se font, vous le savez, et vos auditeurs le savent très bien. Et on avait envie, nous, de faire quelque chose, alors de modeste, hein, parce que c'est une petite, ça n'a rien à voir avec une grande radio nationale, c'est une petite radio, mais de soigner. On a vraiment mis beaucoup de temps, on a mis 6 mois à travailler sur les playlists, sur les paroles d'enfants, sur la poésie, la présence de la poésie et de la parole. Il y a près de 20% de poésie et d'histoire sur la radio. Ça, c'est une vraie volonté de faire de Radio Pomme d'Api une radio qui pourrait permettre à l'enfant et au tout jeune enfant d'entrer en amitié avec sa langue. On parle beaucoup aujourd'hui des difficultés d'apprendre à lire, à écrire. Avant ça, il y a déjà le souci d'entrer en connivence avec cette langue.
Et ça, c'est quand même la ligne éditoriale de Bayard.
C'est la ligne éditoriale de Bayard, voilà.
À l'apprentissage de la lecture et au plaisir de lire. C'est ce qui a motivé toutes les publications de Bayard.
Tout à fait.
Alors vous, Stéphane Bataillon, là, tout de suite, vous évoquiez les textes de poésie. Vous êtes un grand fan de poésie, vous êtes poète vous-même.
Oui.
Est-ce que ça a eu une influence sur cette présence de
bien
de
sûr,
textes
bien sûr,
politiques
et
à l'antenne.
Moi, je revendique un peu ça, c'est-à-dire que il y a beaucoup de subjectifs, il y a beaucoup d'enthousiasme profond et de volonté aussi de transmettre quelque chose. Et c'est peut-être pour ça qu'on a réussi à fédérer autour de nous beaucoup de labels qui nous ont tout de suite dit, bien avant que la radio se lance, hein, OK, on marche avec vous. Enfance et musique, Naïve Jeunesse, Didier Jeunesse, l'École des loisirs, qui pourtant est un concurrent dans le domaine de l'édition. La montagne secrète de Montréal, par exemple, qui rejoint Radio Pomme d'Api, Victory Music, les éditions des Braques, enfin plein de partenaires qui nous ont dit, on marche avec vous.
Alors marcher avec vous, ça veut dire quoi ? On vous confie des artistes, des extraits de CD, des CD particuliers ?
Oui, c'est déjà... Il y a eu un gros travail de technique sur cette radio-là, c'est-à-dire de prendre un peu tout le catalogue de chansons des éditeurs sous format numérique, qu'on a, alors c'est un peu technique, mais on a encodé dans un format qui conserve la qualité sonore du CD. Le son peut être écouté en MP3, il y a deux options sur le site, donc c'est un son qu'on entend un peu partout, mais peut aussi être écouté en haut débit avec une vraie
qualité du CD.
Voilà, qui a un spectre bien meilleur, donc nous c'est ce qu'on privilégie, hein, bien sûr. Donc il y avait récupérer toutes ces chansons, faire une sélection, alors avec l'expertise aussi de la rédaction de Pomme d'Api, hein, qui a une expertise.
Chacun a donné ses
chansons préférées. Voilà. Et on a sélectionné ça. Et ensuite, il y avait un gros travail d'encodage, mettre les bonnes pochettes, tout ce que vous voyez apparaître lorsque vous écoutez la radio sur smartphone ou ordinateur, le titre, tout ça. Il fallait entrer tout ça.
Vous avez passé combien de nuits là-dessus ?
On a bien passé 3 mois à temps plein pour préparer une première, un premier ensemble de titres, en y mettant aussi, au-delà de la chanson pour le jeune public, du jazz, de la variété française, de la musique classique. La volonté, c'était de se dire, bien sûr, les enfants à cet âge-là sont à la fois en extrême adéquation avec, avec la musique, avec la chanson, les comptines, tout ça, et en même temps n'ont pas du tout les goûts des grands. Donc il y a certaines radios qui se destinent aux enfants, parce que ça existe, hein, y a déjà d'autres qui mettent une programmation se rapprochant d'énergie. Bon,
vous en êtes très loin.
On en est très loin et on en est volontairement très loin. C'est-à-dire qu'on fait une vraie sélection des titres qu'on diffuse à la radio. Ils auront bien le temps de se forger leur propre goût et puis de voir un peu ce qui est à la mode et d'en parler avec leurs copains. L'idée là, sur ces premières années d'écoute, c'est de leur ouvrir vraiment le spectre sur la création. Donc, par exemple, en chanson française, c'est vrai qu'on prend beaucoup de gold de Chartrier, oui, Bourville.
C'est comme la génération d'avant que vous avez choisi.
C'est la génération d'avant.
Bien avant.
Voilà, bien avant, avec ce souci-là. Voilà, ça fait partie de ce patrimoine transmis, patrimoine qui est en alchimie avec tout le répertoire nouveau de la chanson d'aujourd'hui et de la chanson pour enfants d'aujourd'hui. Où là, on est vraiment en accompagnement des artistes et on va l'être de plus en plus en organisant des rencontres, des événements, des interviews au cours de cette année-là. On va vraiment essayer de faire des événements avec les... Pascal Parizeau sort un nouvel album. Il y a Aldebert qui...
Aussi... On l'a écouté en tout début d'émission.
Voilà, le Chacha. D'accord.
Le Chacha, oui, c'est notre chanteur du jour, là.
D'accord. Ce qui ne nous a pas empêché aussi, de par exemple, l'année dernière, d'aller voir Henri Dess. Et il fêtait ses 50 ans de carrière. Et ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on lui a demandé de prendre ses 10 chansons préférées et de nous raconter une petite anecdote autour de chaque chanson. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on fait, qui est aussi au niveau de l'enfant. L'idée c'est pas non plus d'aller interviewer les artistes pour se faire plaisir. Il faut que ça ait un intérêt pour l'enfant, un enfant qui a entre 3 et 8 ans.
Donc le public que vous visez, ce sont les enfants, avec ou sans parents?
Avec ou sans parents. Ce qui est assez drôle et on s'y attendait pas du tout, c'est que certains parents nous écrivent... Il est 22h, j'écoute encore Radio Pomme d'Api, mais mon enfant est couché depuis longtemps. Et c'est vrai que dès le départ, on s'est dit aussi, alors la programmation est organisée selon les rythmes de la journée. Donc avec des jingles spécifiques le matin, à midi, au goûter, et le soir, une histoire pour s'endormir. Puis des musiques plutôt douces, berceuses, jazz, tout ça. Et c'est vrai qu'on a pensé un peu aux parents, et à nous, hein, puisqu'on est, on est tous jeunes parents dans l'équipe, en se disant, bah voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on peut continuer un peu d'écouter. On ne pensait pas que ça marcherait aussi bien. C'est vrai qu'on a beaucoup de parents qui sont fans.
Donc là, vous parliez de la programmation au jour le jour. Et par rapport à la semaine ou par rapport au mois, vous avez des rendez-vous réguliers? Est-ce que si on l'écoute plusieurs jours de suite, ce que je n'ai pas fait, j'avoue, on va réentendre la même bande, ou au contraire...
Alors, c'est organisé pour vraiment... S'il n'y avait jamais vraiment le même programme, hein. Ce n'est pas une bande qui se déroule, c'est vraiment une programmation alors générée, hein, grâce à des outils informatiques, mais qu'on a classé, chaque chanson, on les a classées par temps calme, vif, selon les saisons. Alors, par exemple, en ce moment, en rentrée, il y a beaucoup de chansons autour de l'école. En octobre, là, on a toute une playlist sur des chansons autour des sorcières, sur Halloween. Et bien sûr, à Noël, on a une grande programmation spéciale avec plein de belles chansons sur Noël. Alors, pas trop pour pas non plus fatiguer les auditeurs, mais on avait envie de retrouver cette chaleur un peu d'un média numérique, hein, 100% numérique pour le coup, mais voilà, qui nous enveloppe et dont on pourrait se souvenir plus tard. Il y a ce côté un peu création de souvenirs.
Alors Stéphane, je vous ai demandé de venir avec deux chansons. D'ailleurs, vous m'en avez envoyé 4 déjà, ouais, en disant, j'ai bien vu que vous aviez du mal à faire votre choix. Et donc, on va écouter celle à laquelle vous teniez le plus, visiblement, c'est Najette et les Poux. Donc, c'est pourquoi? Parce que c'est la rentrée?
C'est parce que c'est la rentrée et l'actualité des enfants. Et ça, c'est très important sur Radio Pomme d'Api. En ce moment, c'est le retour des Poux. Alors, pour le coup, l'actualité des enfants et des parents. Hein.
Donc, actualité des enfants sur Aligre FM.
C'est nous les poux, les poux, les poux, les poux, les poux, les poux, les poux. C'est nous les poux, les poux, les poux, les poux, les poux, les poux, les poux.
Maman, ça me gratte derrière les oreilles, au niveau du cou, c'est le pic que ça gratte. Regarde ma tête, je suis sûre que c'est les poux. Non, pas les poux. Non, pas les poux. Mais que veulent-ils? À quoi servent-ils? À nous rendre fous? Bande de voyous, allez, c'est reparti pour la pharmacie, chercher des produits pour la chasse à poux. Voilà les poux! Voilà les poux!
C'est nous les poux, les poux, les poux.
Maman fait la tête, ses doigts dans ma tête. Elle n'a pas de poux, mais se gratte quand même. Mon père lui s'en fout, c'est le plus heureux. Il n'a plus de cheveux sur le caillou. C'est mon époux! C'est mon époux!
C'est ton époux!
Ma sœur ne veut plus jouer avec moi. Elle a tellement peur d'aller au coiffeur.
Non, chez le coiffeur.
On lui coupe ses couettes. Mais qu'est-ce qu'elle est bête de me faire la tête pour une petite bête de rien du tout.
Voilà les poux. Voilà les poux.
C'est nous les poux.
Maman est à bout, c'est une anti-poux. Qu'est-ce qu'ils sont relous dans nos peignes à poux. Elle pèse son tabou, le crâne de ripou, le petit voyou, et tout et tout.
C'est nous les poux.
C'est nous les poux.
C'est nous les poux.
C'est nous les poux.
C'est nous les poux,
c'est nous les poux,
c'est nous les poux,
tralala les poux.
Pou, pou, pidou.
Les poux par Najette est un choix de Stéphane Bataillon, qui est le rédac-chef, c'est comme ça qu'on dit, de Radio Pomme d'Api, radiopommedapi.com. Vous écoutez combien de disques ou de CD par jour pour faire votre choix?
J'en écoute au moins 5 par semaine, il en faudrait plus. C'est-à-dire que là, on essaye vraiment de constituer une base en mixant des nouveautés, bien sûr, donc les CD qu'on reçoit à la rédaction, mais aussi de plonger dans le patrimoine. Alors, ce qui est formidable avec une web radio, c'est qu'on peut, diffuser ce qui a été produit avant. Donc, il y a des trésors à redécouvrir, voire peut-être un jour à transférer des choses qui ne sont plus éditées, à transférer de vinyle en numérique. Des histoires, des choses comme ça. C'est ce qui est formidable avec cet outil-là, qui émet, cette radio émet 24 heures sur 24. Donc on peut varier la programmation à l'infini, et en même temps, on sait très bien qu'à cet âge-là, les enfants adorent réentendre les mêmes chansons. On nous avait dit au début, si vous voulez vraiment que ça marche, Radio Pomme d'Api, il faut prendre 50 chansons et les mettre en boucle. Et nous, on s'est dit non, on n'a pas envie d'être là-dedans. On veut aussi faire découvrir à l'enfant une grande diversité de chansons.
Donc il y en a combien à peu près?
Pour l'instant, on est à 1500 titres à peu près qui tournent. Hein, donc on n'a pas trop d'objectifs en nombre de titres. Ce qu'on a envie plutôt de développer, c'est de développer les paroles d'enfants. Il y a beaucoup de paroles d'enfants sur la radio. Donc là, on est en train d'en enregistrer d'autres. On va essayer de créer des ateliers radio avec Elodie Fondacci. Qui vont permettre aux enfants de s'initier un peu à la radio, à enregistrer leur voix.
Donc c'est eux qui vont faire leur radio.
Voilà, ils vont faire leur radio, et puis nous, on le diffusera à l'antenne. Et on a surtout envie de développer des petites émissions. Alors pas trop, parce que la web radio, c'est vraiment différent de la radio. Les gens viennent chercher de la musique, ou des histoires, ou des comptines. Mais de développer le conte et des histoires, donc un peu le week-end et le mercredi. Donc là, cette année, on va avoir des nouveaux rendez-vous comme ça, de plages d'histoire. On pourra s'asseoir et écouter.
La web radio, c'est gratuit.
Oui.
Bayard n'a pas l'habitude de faire dans le gratuit.
Non, mais ici, on est vraiment en prolongation du titre Pomme d'Api. Donc l'idée, c'est d'être vraiment média, un prolongement du journal. D'ailleurs, dans le journal, on a réinstauré, alors ça existait, hein, mais on l'a systématisé, une chronique de CD par numéro et un renvoi vers la radio avec Anne Ricou, qui est la rédactrice en chef de Pomme d'Api. Donc on travaille vraiment ensemble là-dessus. Et puis on va prévoir d'autres événements en lien entre le magazine et la radio. Donc voilà, c'est un prolongement. Ensuite, effectivement, c'est un nouveau média, la web radio, pour nous, pour le groupe Bayard et pour les groupes de médias en général. Hein, tous les Télérama, Libération, tout le monde est en train de lancer sa radio. Ça a beaucoup d'avantages. Ça a aussi un avantage de proximité, de chaleur qu'on retrouve peut-être, ou qu'on avait un peu perdu avec le numérique. Hein, moi, j'ai travaillé beaucoup sur... Enfin, je travaille sur les offres numériques du groupe. Et c'est vrai que la radio permet une proximité qui se concrétise très, très vite. C'est-à-dire, sur les réseaux sociaux, on voit très bien que Radio Pomme d'Api fait partie de la vie des familles aujourd'hui, même après un an. On a beaucoup, beaucoup de retours, même négatifs. Hein, quand on a des petits problèmes techniques, les gens nous remontent les soucis, ce qui montre leur fidélité à la radio. Et ça nous permet vraiment de développer un autre rapport avec le numérique. Et ça, c'est très important. On avait vraiment commencé à être un peu mal à l'aise avec cette... cette domination du numérique un peu partout. Alors, on a nos magazines hein, qui restent, voilà, qu'on fait avec passion chaque mois. Mais on essaye de trouver des solutions pour être dans ce monde numérique, être en contact de l'enfant et des parents, tout en gardant ce qui fait un peu notre raison d'être. Donc, ça, c'était une première chose. Donc, c'est un média au service de cette production-là, de cette création. Et ensuite, ben, on a plusieurs idées. Alors, on va un peu voir. On est un peu en expérimentation sur ce média-là. Peut-être lancer d'autres radios pour les plus grands ou alors des radios plus spécifiques sur le conte, sur les comptines, des choses comme ça. Et à ce moment-là, à un moment, on mettra peut-être de la promotion ou des partenariats avec des labels pour annoncer des concerts, par exemple.
Et donc, l'argent arriverait par là.
Voilà. Mais... on reste sur un projet quand même très modeste à ce niveau-là. Les web radios, je crois que la plus grosse web radio en France fait à peine l'audience d'une petite radio locale, hertzienne. Donc, sur ce marché, c'est encore un média.
Et oui, heureusement que la radio est encore là.
Heureusement.
La vraie radio, non, je n'ai pas fait.
Mais c'est la magie de la voix, c'est la magie de la voix, c'est la simplicité du contact, c'est assez formidable.
Est-ce que vous avez rencontré beaucoup de difficultés pour monter cette web radio ? Des choses auxquelles vous attendiez pas. Je pensais par exemple, je dis n'importe quoi, la SACEM par exemple.
Non, parce qu'on avait, on a travaillé dès le début sur ce projet avec le Jam Radio, qui lui a une expérience de 10 ans dans la web radio, dont la web radio est une des 10 premières françaises. C'est une très belle radio pour adultes d'ailleurs, hein, c'est avec beaucoup de variété aussi. C'est un peu la même, on s'est retrouvé sur une même ambition. De qualité d'écoute, de diversité. Et donc, on a... Voilà, d'être avec ce partenaire, c'est des amis, ça nous a évité beaucoup d'écueils. Effectivement, c'est un autre monde, la radio aussi. Hein. C'était pas du tout l'expertise de Bayard. Donc, on a appris au jour le jour. Mais ça s'est plutôt bien passé. C'est plutôt au niveau technique où on ne se rendait peut-être pas compte de la montagne de travail... pour surtout préparer les répertoires. Mais c'est ce qui fait aussi l'intérêt.
Revenons-y justement au répertoire. Vous avez dit tout à l'heure les orientations que vous aviez prises, mm-hmm. chanteur pour enfants contemporains, aller plonger dans le classique, la musique classique. Mais il y a, on va dire, les failles, les creux, là où vous n'êtes pas allé. Est-ce que ce sont des choix de vous ? Par exemple, je pensais aux musiques du monde qui sont très peu présentes
oui.
sur Radio Pomme d'Api. Les chanteurs contemporains, vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est parce que vous avez puisé à ce niveau-là, dans vos propres discothèques des uns et des autres, ou alors, donc de exemple, vos goûts personnels.
Voilà, alors par exemple sur les musiques du monde, c'est quelque chose qui est quand même présent à travers notamment les CD de Didier Jeunesse sur les comptines du monde.
Oui, mais je pensais quand vous parlez de musique classique. Mais alors les vraies musiques, oui.
Alors ça vient d'une question de temps, aussi une question de compétences, hein, c'est-à-dire que dans l'équipe, on a personne qui s'y connaît.
Ah oui,
très bien,
c'est donc
du
monde. Bien vos discothèques voilà. personnelles qui mais ont servi de base.
Voilà, oui. voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on va développer progressivement. C'est vrai que c'est très intéressant de ces sonorités-là différentes. Donc, on va les développer. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qu'on a fait en priorité.
Et est-ce que, autre question que je vous pose aussi, on connaît Bayard aussi dans son travail d'exigence, c'est-à-dire par rapport à les enfants. Quand j'ai cité au tout début Petit ours brun, ce n'est pas par hasard, mm-hmm. c'est quand même une des lignes fortes de chez Bayard. Et donc ma question, c'était est-ce que aussi vous avez envie d'aller du côté un peu de l'impertinence qui n'est pas forcément la marque Bayard, mais de leur proposer des choses qui seraient inhabituelles à faire entendre aux enfants.
Alors, je crois que dans la playlist de Radio Pomme d'Api, il y a beaucoup de chansons impertinentes. Il y a beaucoup de choses qu'on a proposées aux auditeurs et qui ne sont, entre guillemets, pas ce qu'on pense de ce qu'est Bayard aujourd'hui. On n'a aucune... Vous parliez de Disney tout à l'heure, même si ce n'est pas de l'impertinence. C'est aussi une volonté de vraiment aller sur un spectre très large. Donc on a aussi...
Mais Disney, vous allez sur un terrain qui est connu des enfants.
Et connu des enfants, mais ce n'est pas du Bayard, par exemple. On est très ouvert à ce niveau-là. Et par exemple, sur la création... Alors, quelle est l'impertinence à 3-8 ans aussi? C'est une vraie question. Hein, y a certaines chansons de Charles Trenet, par exemple, qui nous ont été presque reprochées. En disant, mais pourquoi vous donnez ça aux enfants? C'est pas poli. Y a des... Bon, mais justement, c'est une volonté. La poésie aussi. La poésie, la subversion de la langue est une forme d'impertinence. Et ça, c'est important. Je pense que
c'est
vraiment,
par ce côté-là que vous êtes.
C'est par ce côté-là. C'est surprendre par des sonorités différentes, par des mots différents. Elle est là, l'impertinence. Ensuite, c'est à l'enfant de se l'approprier, de prendre, de le manipuler et d'en faire quelque chose. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup de paroles d'enfants, qui sont des paroles d'enfants enregistrées le plus librement possible. Ce n'est pas des comédiens, c'est des vrais enfants qu'on enregistre comme ça. C'est de leur laisser cette poésie-là, cette surprise qui est peut-être pour moi plus intéressante qu'une impertinence un peu portée en étendard comme ça. Je pense que c'est déjà pas l'âge. C'est aussi le rapport à l'humour, c'est quelque chose de délicat à cet âge-là. Donc on est plus un préparateur du futur pour l'enfant en lui donnant du plaisir et de la pétillance dans l'écoute de ses musiques.
Donc ça fait 15 mois que Radio Pomme d'Api diffuse sur le net, d'une part. D'abord, ça a commencé sur le net. Oui. Quelques semaines, quelques mois après, avec des applications gratuites, qui, moi, me semble très important, vu les tablettes et les téléphones qui sont dans les mains des enfants, autant qu'ils la mettent à côté d'eux sans la regarder et qu'ils l'écoutent. C'est quand même très, très important. Est-ce que vous avez une idée du nombre... D'abord, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais du nombre d'auditeurs que vous avez, mais surtout qui ils sont, les enfants qui vous écoutent, hormis par les messages que vous recevez des parents?
Alors, ça, c'est un peu compliqué. L'audience des web radios est très, très, très compliquée. Il y a un organisme qui s'appelle l'OJD qui contrôle ces radios-là. Donc là, nous, on est aujourd'hui dans les 30 premières radios de marque française, web radio. Donc en premier, il y a NRJ qui a lancé plein de radios. Nous, on est dans les 30 premiers, ce qui est plutôt bien après un an d'existence. Ce qu'on sait, c'est qu'on a 50 000 auditeurs très fidèles qui nous écoutent au moins 4 fois par semaine et plus souvent plus d'une demi-heure. Voilà, donc on a ça et ça, c'est une vraie satisfaction de créer cette fidélité-là. Parce que sur certaines web radios, il y a des durées d'écoute très très faibles, qui peuvent aller à 20 secondes, 30 secondes. Nous, on est plutôt à 20 minutes, voire une demi-heure. C'est en train de progresser. Donc ça, on est content. Ensuite, connaître les enfants. On a demandé aux parents, en fait, et c'est un des principes de la radio, un peu interactive, de nous envoyer les chansons préférées de leur enfant pour qu'on les mette sur la radio. Donc ça, à travers ça, on peut se rendre compte qu'on doit être plutôt sur du... 5-7 ans, en majorité. On n'est pas sur les tout-petits, même si on a des berceuses, des choses comme ça. On est plutôt sur cet éveil musical, en fait, de cette tranche d'âge-là. La web radio est intéressante dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on peut avoir des outils, des moyens d'entrer en contact avec les auditeurs, qui n'est pas forcément une entrée en contact à l'antenne. Donc on va développer ça. Encore une fois, c'est... On essaye déjà de stabiliser la base un peu technique.
Qui vous accapare beaucoup déjà.
Oui, beaucoup. Vous me posiez tout à l'heure la question de savoir si on n'avait pas eu de soucis. Les soucis, c'est surtout au jour le jour de tenir la radio en état d'écoute optimal tout le temps.
Donc, il faut être taquet sans arrêt.
Il faut être taquet sans arrêt. Qu'est-ce qui se passe
s'il arrive quelque chose à 4h du matin?
On a des alertes, alors peut-être pas à 4h du matin parce que tous ceux qui s'en occupent dorment, mais il nous est arrivé jusqu'à minuit d'essayer de réparer un peu ou de
corriger. Et là, vous rejoignez les préoccupations des radios traditionnelles comme la
Sûrement.
C'est là où on se rejoint, entre autres. Merci beaucoup, Stéphane Bataillon.
Merci à vous.
Vous évoquiez donc tout de suite les nombreux projets que vous allez mettre en place. C'est lequel qui vous tient le plus à cœur, là, à mettre en place dans les prochaines semaines ou mois?
Avec plusieurs partenaires aussi, travailler sur le conte. travailler sur le conte classique, donner à entendre les vraies versions, les versions originales des contes, par des conteurs contemporains. Donc on essaye de travailler une émission d'abord, peut-être ensuite vraiment une seconde radio dédiée aux contes et aux contines.
Et là, je pense que parmi vos labels partenaires, il y en a qui sont bien placés pour
vous. Qui font un travail de grande qualité. Et ça, c'est important, c'est de se dire qu'on est très heureux de mettre en avant toutes ces productions trop peu connues et qui sont notamment, je pense, aux histoires, hein, aux contes. Il y a des choses, les éditions Oui Dire, par exemple, il y a des choses formidables qui se font. Et j'incite vraiment les parents à aller voir un peu. Il y a des sites internet, il y a même des librairies qui vendent les CD, à aller découvrir ces productions qui sont un enchantement.
Bon, on aura nos auditeurs d'attendre midi pour aller cliquer sur Radio Pomme d'Api, de rester avec nous jusqu'à midi et ensuite
d'aller
écouter Radio Pomme d'Api et puis surtout aussi si on a un téléphone ou une tablette, télécharger l'application qui est soit pour Apple, soit pour Android et donc qui est gratuite.
Tout à fait.
Ben merci beaucoup Stéphane.
Merci Véronique.
Et on se quitte avec une deuxième chanson que vous avez choisie, c'est celle de Gotainer.
Oui, de Gotainer, Richard Gotainer qui est vraiment un créateur de mots. Voilà un artiste des années 80 qui se faisait beaucoup. Voilà, ça c'est le jeu avec les mots, le jeu avec la langue et c'est un bonheur.
On y va. Merci beaucoup.
Merci.
Astico, whistiti, chalumeau, zigouigoui, bigoudi, artichaut, les mots sont rigolos. Pistache et cacahuète, saucisse, rutabaga, pour se fendre la binette des mots marrants. Y en a le mot cacatoès, de par son allégresse, lorsqu'il est bien placé, tu l'as, morosité. Pissenlit, pipistrel ou cucurbitacé, on en trouve à l'appel, des mots qui font poiler. Capuche, râteau, mouillette, berlumère, l'enfouchera, cajon, purin, burette, poireau, bigle, nougat, poireau, bigle, nougat. La pâte de jujuba, son simple énoncé, limite sa foule et flubac, gueule, pointe et pliée, tam, tam, doy, boy, plumon, barba, papa, pouette, pouette, turlu, tutu, calypso, charabia, caribou, pétodière, robinet, salami, pour se fondre la cafetière. Souvent suffit. Ars conçu, cette cache colle tartine suppositoire. Y'a des choses de haut vol pour s'allumer la poire. Tout pique à chou bidule, c'est ma forte testicule. Les mots venaient mes beaux, gondolaient mes boyaux. Bigorno, patchouli, ragout, alugrumeau, colibec, ajibi, manganèse, mikado, kangourou, cacatois, sushi, titi, caca, ils viennent du monde entier, les mots nous chatouillés, pipo, cabavirole, cornichon, roubignol, tutu, papou, gigot, tatami, caca, par tabac, clafouti, tabou, zoulou, boubou, protoplo, rikiki, cha cha cha, roudoudou. Nichon gourdin, abyssal, tentacule, biglotte, marloupin. Capsule, bidon, béret, bagnole, pistou, pétard, libu, baigneur, plumet, crépule, cocon, plumard. Quetch, beurre, flûte, taxe, blâme, gru, poule, bloc, miche, cupro, max, tiche, bulltoc, flat, bung, flou, nas, mus, bête, touffe, pique, boule, plume, basse, tom, pouch, larbique. Tu lâches du chihuahua, c'est la crise assurée, t'envoie Chipolata, t'es sûr des retombées. Les mots font du chahut, ils aiment se bousculer. Quand ça balance velu, c'est du poil à gratter. C'est du poil à gratter. Babouche, rabot, cuvette, lubibar, luchoufleur, guignol, tango, braguette, l'idée, citrou, gicleur. Les mots, c'est du bonheur.
À À l'YFM 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Vous connaissez peut-être déjà Lucie et Lola, pour les avoir entendus tout au long de la saison dernière pour parler littérature. Cette année, le cercle s'élargit. Lucie, Lola, Anna, Pablo, Naina, ils ou elles ont 8, 9, 10 ou 13 ans. Ils ou elles aiment lire et parler de leur lecture. Chaque semaine ou presque, l'un ou l'autre présente un livre de son choix, un gros roman ou un plus petit, un tout nouvellement paru ou plus ancien, un livre connu ou qui n'est pas encore, à son gré. Quelques mots pour introduire le livre, un petit commentaire critique, la lecture d'un extrait et hop, c'est dans la boîte. Et pour sa première chronique littéraire à la radio, Anna, 8 ans, a choisi un livre qu'elle trouve très drôle. On l'écoute.
Bonjour, je m'appelle Anna, j'ai 8 ans. Je vais vous présenter un livre qui s'appelle Chi. C'est une bande dessinée, ça raconte l'histoire d'un chat qui est très craintif. Chi, c'est un chat qui fait plein d'aventures et qui est très rigolo. Et ses maîtres, c'est une maman, un papa et un fils. Et le chat, il va parcourir plein d'aventures. Même un moment, il va rencontrer sa famille d'avant parce qu'il a été perdu et c'est pour ça que des gens l'ont recueilli. En fait, là, c'est le tome 4. Là, ils vont faire un déménagement. Je vais vous lire un petit extrait. Je vais commencer depuis le début. Là, il est en train de... Il a observé et il a vu qu'en fait, les cartons pas encore fabriqués. Et du coup, il s'étonne. Et là, il voit ses maîtres et ses maîtresses et son frère un peu... qui mettent des choses dans la grosse caisse. Et là, il dit, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils continuent à mettre, et le chat, il court vers un truc, et il essaye de monter, mais le papa, il le prend et il le rejette, parce qu'il n'a pas le droit d'aller dans les caisses. Et ensuite, il essaye de monter dans un autre paquet, et il y a la maman qui le repousse, et voilà. Et ensuite, il est énervé. Il monte dans un autre plus loin. Et ensuite, c'est à vous de le découvrir. J'aime bien Chi parce que il est très rigolo et son imagination, c'est un peu bizarre. Au milieu du livre, il imagine des personnes à 1000 pattes. Un chien à 1000 pattes, alors c'est super rigolo, voilà. J'aime tout dans Chi. Le titre, c'est Chi, et l'auteur, c'est Konami Kanata, et l'éditeur, Lena.
Et moi, je dis un grand bravo à Anna pour cette première chronique, et surtout pour s'être lancée à présenter une bande dessinée, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus difficile à faire. Alors bravo à elle. Et avant de retrouver Lionel pour sa lecture d'un extrait de roman de littérature générale, je vous propose d'écouter une chanson, non pas pour les enfants, mais une chanson sur l'enfance ou sur les enfants, interprétée, imaginée, créée par des chanteurs contemporains. Aujourd'hui, c'est Mon Papa par François Morel.
Qui va rentrer, papa? Comment qui va, papa? Sera-t-il sous, sera-t-il pas? Comment qui va rentrer, papa? Comment qui va rentrer, papa? Comment qui va, papa? Sera-t-il sous, sera-t-il pas? Comment qui va rentrer, papa? Va-t-il arriver titubant? Va-t-il débarquer l'œil méchant? Qui va rentrer, papa? Sera-t-il sous, sera-t-il pas? Les ivrognes, ça fait marrer quand on les voit à la télé. Tant mieux si toi, ça te fait rire. Pardon, moi, ça me fait frémir. Comment qui va rentrer, papa? Comment qui va, papa? Sera-t-il sous, sera-t-il pas? Comment qui va rentrer, papa? Va-t-il crier l'œil menaçant? qu'ils feront à ses enfants. C'est l'heure où l'on n'ose rien dire, l'heure où chacun s'attend au pire. Comment qui va rentrer, papa? Comment qui va, papa? Sera-t-il sous, sera-t-il pas? Comment qui va rentrer, papa? Il nous fait rigoler Bourville quand il prend son air imbécile. Au cinéma, c'est trop marrant, pardon, chez soi, c'est effrayant. Comment qui va rentrer, papa? Comment qui va, papa? Se souvenait un vieil enfant, âgé bientôt de 50 ans. Sera-t-il sous, sera-t-il pas? Comment qui va rentrer, papa? La nuit parfois se réveillant, se demande le cœur battant. Comment qui va rentrer, papa? Comment qui va, papa? Sera-t-il sous, sera-t-il pas? Comment qui va rentrer, papa? Comment qui va rentrer, papa? Comment qui va, papa? Sera-t-il sous, sera-t-il pas? Comment qui va rentrer, papa?
François Morel, Mon papa sur Aligre FM, une chanson pour accueillir Lionel Schenheim. Bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison sur Aligre FM. J'ai dit en tout début d'émission que vous étiez un fidèle des fidèles de
oui,
cette émission,
vrai.
Mais ça fait un petit paquet d'années.
Mais oui, je ne compte plus.
Et moi non plus. Donc, après cette chanson très joyeuse de François Morel... Est-ce que le livre que vous avez choisi pour votre rentrée est très joyeux?
Non, il n'est pas très joyeux. En tout cas, l'extrait que j'ai choisi ne l'est pas vraiment, mais il est plus nostalgique pardon, que triste. Après, après, c'est un livre de Christine Angot. Donc, Christine Angot, ça fait remonter à la surface des choses pas forcément gaies. C'est a priori de l'autofiction, puisqu'elle-même, elle reste assez floue sur le fait... Est-ce que c'est vraiment sa vie qu'elle raconte ou est-ce que c'est une vie romancée? Bref, elle revient sur ses thèmes de prédilection. Enfin, là, le livre parle surtout d'un amour irrésolu pour sa mère lorsqu'elle était enfant et amour pour sa mère qui va se déliter petit à petit après l'inceste et le viol du père qu'elle a raconté dans plusieurs de ses livres. Et là, j'ai choisi un extrait de la fin du livre où elle retrouve sa mère après la mort du père et où elles essayent de reconstruire un lien qui a été abîmé. Je voulais te dire que j'ai lu ton texte sur la honte dans Libération. Et ce texte m'a beaucoup ébranlé. Je ne t'en ai pas parlé tout de suite parce que ça m'a perturbé. Ça m'a rappelé des moments de grande pauvreté que j'ai vécu. Quels moments? Ben, des moments que j'ai connus, des choses que j'ai ressenties il y a très longtemps, mais qui marquent une vie, je crois. À quel moment ça t'a fait penser? Oh, c'est des choses anciennes. C'est pas très agréable d'y penser. Essaie de me dire. Je peux te donner un ou deux exemples, si tu veux, puisque ça a l'air de t'intéresser. Je veux bien, oui. Bon, je te dis comme ça, hein, dans le désordre, comme ça me vient. Oui? Eh bien, la honte de la grande pauvreté, par exemple, pour moi, c'est... Je te dis au hasard, hein? Oui, oui. Avoir honte d'aller à l'école l'hiver avec des sandales d'été. Être gêné quand on regarde tes pieds. Avoir honte d'être très pauvrement vêtu. Avoir honte de voir la religieuse qui venait faire des piqûres à ma grand-mère donner un billet de 5 francs à maman qui n'avait rien ce jour-là pour acheter à manger. Elle parlait en me regardant. Accepter et comprendre, car on te le demande, que le Père Noël n'a pas pu du tout penser à toi. Voir maman partir au bureau de la Gestapo au moment de leur proche départ pour se faire régler une petite note de repassage restée impayée. Elle était si craintive, elle était revenue avec son argent. Je me souviens comme elle était fière d'avoir osé y aller. Elle a regardé par la baie vitrée, comme si ma grand-mère était en train de passer. « Ça te dérange, maman, si je note ce que tu es en train de dire ?»« Non, ça ne me dérange pas. »« Il y a autre chose, Christine, que je voulais te dire. »« À propos de la honte ?»« Oui. »« Quoi ?»« Tu as toujours cru que je tenais pour peu de choses l'environnement peu agréable de la ZUP, et plus tard celui des Châtillons. »« Tu te trompes. C'était très difficile. » En même temps, ça représentait une certaine sécurité, une petite aisance qui montrait son nez peu à peu. Je désirais tellement fort une meilleure vie pour toi, la possibilité d'études, un autre cadre de vie. Elle tournait sa bague autour de son doigt, une bague de 7 anneaux entremêlés qu'André lui avait offerte quand il s'était marié. Et elle promenait son regard de la baie vitrée à mon visage. Aujourd'hui, tu vois, j'ai pas de soucis de fin de mois. Et pourtant, un serveur est venu. Nous a demandé si on voulait un dessert. On a dit non, il est reparti. Et pourtant, oui. Si je te disais qu'il m'arrive de repenser avec regret à la ZUP, ou au Châtillon, et même à ces jours où je faisais mes comptes et où tu me disais « Tu en fais des choses intéressantes, toi, maman ?» Je te disais ça. Oui, tu me disais ça. Tu étais mignonne, tu sais. J'avais une mignonne petite fille. Et on était bien. J'arrive pas à te dire les choses exactement comme je voudrais. C'est difficile quelquefois d'exprimer certains sentiments. J'aimerais tellement pouvoir exprimer ce que je ressens. Mais les choses intimes sont les plus difficiles à exprimer. C'est vrai. Je me souviens d'une belle année vécue à la ZUP qui a été particulièrement belle. Celle de tes 10 ans. Ça a été une année vraiment heureuse. C'était l'après 68. Il y avait eu un vent de liberté. Toi, tu étais contente. Tu étais fière d'avoir 2 chiffres à ton âge. Moi, j'avais trouvé à Gironde un entourage professionnel qui me convenait. Tu avais ton école, tes amis, tout était bien. C'était une période calme. On s'aimait. On était bien ensemble, on riait bien. Tu me disais « T'es gay, toi, maman ». Je sais, je m'en souviens. Ça a été une très belle année, cette année-là. On est parti en vacances pour la première fois depuis longtemps à Kerpap. Tu avais rencontré une petite fille de ton âge, une petite Belge. Ça avait été de très bonnes vacances. Il n'y avait rien eu de particulier. Mais de la douceur. Elle avait les larmes aux yeux. Elle a essuyé le coin de son œil, puis elle a regardé la petite larme au bout de son doigt. Maintenant, j'ai une autre vie. Je suis peut-être même une autre personne. Mais j'ai toujours gardé en moi le souvenir de cette année de tes 10 ans. Il n'y avait rien d'extraordinaire, pourtant. Les choses n'étaient pas plus faciles. Enfin, voilà. C'est tout ça, tu vois, que ton texte sur la honte a remué. C'est des petites choses, c'est rien. Voilà. C'était une petite plongée dans le passé.
Un amour impossible de Christine Angot, paru aux éditions Flammarion en ce mois de septembre. Merci Lionel. Il me reste une petite minute pour vous dire que oui, l'émission est terminée et que oui, on se retrouve mercredi prochain à 10h30 sur les 93 points d'Aligre. Dans quelques instants, vous retrouvez les programmes de Radio Pays. Aligre FM, c'est à 17h. Bonne journée.
À la prochaine. À plus. Super. À la prochaine. À plus. À la prochaine. À plus. À la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine.